Je vous dirais qu'on est en train de s'adapter, de s'approprier les lecteurs de CO2. C'est très correct là, d'avoir une ou deux fenêtres qui sont entrouvertes. Je vois l'image en ce moment. Elles sont pas toutes ouvertes à pleine grandeur. Et si le système de chauffage est capable de garder nos jeunes, je vous dirais confortablement, c'est sûr qu'en janvier, d'habitude, à moins 20, on n'est pas en T-shirt, là, on s'habille correctement. Il faut, je vous dirais, faire preuve de discernement.
Ah voilà, c'était le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, parlant des fenêtres ouvertes un jour de froid pour ventiler les classes. En fait, c'est une question là, qui se pose depuis plusieurs semaines. Le gouvernement a réagi avec des lecteurs de CO2. Les lectures de CO2 devaient identifier les classes où il n'y a pas assez de circulation d'air pour mettre des appareils au besoin. Mais pour essayer de démêler tout ça du point de vue technique, un des experts au gouvernement en la matière, Ali Baloul, docteur en dynamique des fluides et des transferts, chercheur à l'Institut de recherche en santé, sécurité au travail, en ventilation, en qualité de l'air et en masque barrière, est avec nous. Bonjour, M. Baloul.
Allô, bonjour, M. Dumont.
Bon, c'est vraiment vous le grand spécialiste de ces matières-là au niveau de la santé, sécurité, travail au Québec. Comment ça se fait que c'est si compliqué dans les écoles? D'abord, est-ce que les fenêtres, là, est-ce que c'est une bonne façon de ventiler? Parce qu'on est habitué aujourd'hui dans les grosses maisons, des thermopompes, les bâtiments importants ont des systèmes de ventilation. Est-ce que ça prend un système de ventilation ou est-ce que la fenêtre, ça fait encore le travail?
Ben là, ça va dépendre des cas. Si la ventilation, ce qu'on appelle ouverture de fenêtres, des portes, ventilation naturelle insuffisante, ben la porte d'air frais est toujours quelque chose à privilégier. Parce que là, on parle de COVID par rapport au virus, qu'il faut diluer le virus dans l'air. Mais la qualité de l'air, il n'y a pas juste le virus. Il y a tout un tas de contaminants qui peuvent être en qualité de l'air et que l'apport d'air frais permet de diluer tous les contaminants à la fois. Si on utilise, par exemple, une ventilation mécanique, eh ben, une grande partie, ça va être circulée. En purifiant l'air, ça va être une purification par rapport aux aérosols, mais pas tous les contaminants. Et une partie de l'apport d'air frais qui va délier le reste. Donc, il y a du pour et du contre. Si on parle d'une ou deux, l'idéal, c'est d'avoir une ventilation hybride où on peut utiliser une ventilation naturelle, c'est-à-dire l'apport d'air frais par les fenêtres, quand c'est confortable, et avoir une ventilation mécanique quand on ne peut pas faire un apport d'air frais. C'est l'idéal. Mais maintenant, là, on parle de la ventilation naturelle, on parle spécifiquement pour des bâtiments qui sont vieux, des vieux bâtiments, là. Et ce qui est installé pour l'instant, c'est cette possibilité-là de la ventilation naturelle qui peut faire le travail. Là, on parle, est-ce que c'est suffisant, c'est pas suffisant? Il y avait tout un débat depuis pas mal de temps.
Mais c'est parce qu'il y a des gens, je vous arrête, il y a des gens qui se disent, comme on vit dans un pays froid, où on peut pas ouvrir les fenêtres tous les jours, il devrait y avoir des appareils, toutes les classes où il n'y a pas un vrai bon système de ventilation, il devrait y avoir des appareils. Alors pour vous, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des purificateurs d'air ou des échangeurs d'air dans toutes les classes?
Moi, je pense qu'il faut opter dans le pire des scénarios. Il faut attendre les lecteurs de CO2 diagnostiquer les différentes situations et avec ça, le réseau scolaire pourrait apporter des solutions appropriées à chaque situation-là.
Donc, vous dire d'en installer partout, pour vous, ce serait du gaspillage. Il faut attendre de voir qu'il y a un problème avec les lectures de CO2.
Avant d'installer, il faut diagnostiquer qu'est-ce qu'on doit installer. Les purificateurs d'air, ils vont pas répondre à la question totale de la transmission. Parce que il faut installer plusieurs purificateurs d'air. Là, je l'ai expliqué à pas mal de reprises. Parce que le purificateur d'air, il va capturer ce qui est proche à lui par aspiration, parce que l'aspiration perd rapidement d'intensité. Donc, il va pouvoir capter ce qui est proche, mais pas ce qui est loin.
Donc dans une classe là, de la grandeur de 30 élèves, ça prendrait plus qu'un purificateur d'air?
Oui. Le purificateur d'air, il est bon, il est proche à une source d'émission. Mais dans une salle de classe d'une vingtaine d'élèves avec un enseignant qui peut bouger aussi, où on va le mettre, il est haut la source d'émission. On n'a pas cette information-là. Donc, il faut mettre plusieurs pour s'assurer qu'il, s'il y a une émission quelque part, une personne contaminée, eh ben, le purificateur d'air, il est proche de lui et il va faire le travail. En contrepartie, il va souffler. Donc, le soufflage, si le flux d'air qui va souffler il est dans la direction de deux personnes ou plus, eh ben, il va entraîner une transmission, même des plus grosses gouttelettes, d'une personne à une autre. Et ça, c'est à peu près similaire à une situation de climatiseur. Ça a été démontré dans des restaurants où des gens qui sont dans le flux d'air de climatiseur, ils sont contaminés. Mais les autres qui ne sont pas dans le flux d'air, ils ne sont pas contaminés. Donc,
si je vous écoute, il y a des gens qui parlent de ça comme d'une solution miracle, comme si c'était un miracle, on installe ça, on règle le problème. Ils parlent à travers leur chapeau, là.
Moi, je suis spécialiste en ventilation industrielle. Je travaille dans la captation à la source. Et ce que je dis, c'est ce que j'ai fait tout le temps, là. C'est pas un débutant par rapport à ceci.
On parle de purificateur d'air. L'autre appareil donc que certains mentionnent, c'est d'avoir des échangeurs d'air.
Oui, les échangeurs d'air, ça c'est bien parce que c'est comme une ventilation mécanique. Ça permet d'apporter de l'air frais de l'extérieur, même recyclé. On peut recycler même une partie de l'air de frais et le diffuser dans la salle. Donc il n'y a pas ce problème-là de flux d'air qui va créer. Il va fournir l'air partout dans la salle.
Donc, sauf que l'échangeur d'air, il faut qu'il soit, faut qu'il y ait un bout de tuyau qui est dehors, là. Faut sortir par une fenêtre.
Oui, c'est ça. Il va y avoir une prise d'air par l'extérieur avec un filtre et tout. Et ça se fait, c'est déjà installé dans des salles de classe déjà et dans des écoles privées aussi.
C'est efficace. Okay.
Mais ce que je veux revenir avec les CO2. Là, l'idée d'installer des lecteurs de CO2. C'est pas forcément juste pour la COVID. C'était fait pour vraiment régler le problème de la qualité de l'air une fois pour tout.
Donc, dans les écoles en général, parce que c'est mieux d'avoir une bonne qualité d'air. Même en dehors d'une pandémie, c'est bon d'avoir une bonne qualité d'air pour la concentration, pour l'apprentissage.
On a toujours parlé de qualité de l'air dans les écoles. La COVID, c'était comme une opportunité de faire valoir ce problème-là davantage, et d'où l'installation des lecteurs de CO2, c'est intéressant, parce qu'ils vont diagnostiquer toutes les situations. Les gens vont pouvoir apporter des solutions. Et c'est bien pour les gens sur le terrain, comme les écoles ou les centres scolaires, les commissions scolaires, de faire valoir leurs besoins, parce que là, il y a une lecture, on voit ce qui se passe. Donc, si on fait tout, on n'arrive pas à régler le problème de qualité de l'air, et ben, c'est la déficience de la ventilation. Et donc, il faut apporter des solutions supplémentaires. Ça peut être des échangeurs d'air. Mais là, on parle d'une situation très...
Donc, il n'y a pas de fermeture. Dans votre esprit, il n'y a pas de... Parce qu'il y a des gens qui pensent que le ministère de l'Éducation ou le gouvernement est entêté, là, un refus de mettre des systèmes. Vous dites, si les lectures de CO2 démontrent une mauvaise qualité d'air, on va aller installer des échangeurs d'air au besoin.
Bien sûr, c'est le meilleur. C'est quand on est malade, on va chez le médecin, il va nous diagnostiquer avant de nous donner le meilleur traitement. C'est à peu près pareil. Quand on lit des mauvaises CO2, ça ne veut pas dire que c'est le système de ventilation qui ne fonctionne pas. Ça veut dire que peut-être il y a quelque chose à améliorer dans la façon de ventiler. Des fois, pour la ventilation mécanique, si les CO2 est élevé, ça veut dire qu'il faut nettoyer, il faut changer les filtres, il faut amener plus d'air. Pour la ventilation naturelle, ça va aider la gestion de la ventilation naturelle, comment ouvrir les fenêtres, comment ouvrir les portes d'une façon graduée, de telle sorte à équilibrer entre la température et la qualité de l'air. L'idée, ce n'est pas de rendre des températures très inconfortables, ça, c'est pas ça qui est conseillé du tout. Il faut que la température soit au voisinage de 20 degrés. Et travailler avec les ouvertures des fenêtres et la porte de telle sorte à optimiser la qualité de l'air à l'intérieur. C'est ça l'idée.
Monsieur Balloul, merci beaucoup d'avoir été là.
Je vous en prie.
Au revoir. Bonjour.